Il est 6h40. Bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous sommes effectivement sur France Culture. Pour votre journal des idées, vous revenez Jacques ce matin sur le déclenchement d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump.
Oui, Nancy Pelosi a estimé donc que l'actuel locataire de la Maison Blanche a violé la Constitution en demandant à un dignitaire étranger d'enquêter sur l'un de ses adversaires politiques, l'ancien vice-président Joe Biden. Par ailleurs, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Selon le Washington Post qu'il a révélé le 18 septembre, Donald Trump a notamment invité son homologue ukrainien à ouvrir une enquête, vous en parliez dans le journal Clara, une enquête sur le fils de l'ancien vice-président Hunter Biden, siégeant au conseil d'administration d'une société gazière privée. Après avoir longtemps tergiversé, les démocrates ont estimé que le président n'est pas au-dessus des lois. Selon Gilles Paris dans Le Monde, un autre élément a pu inciter Nancy Pelosi à sauter le pas, la stratégie d'obstruction systématique opposée par Donald Trump aux velléités de contrôle de l'exécutif, pourtant prévues dans la Constitution. Mais le correspondant du quotidien à Washington le souligne, les conséquences politiques du déclenchement de la procédure de destitution restent incertaines. Elle n'a a priori aucune chance de déboucher sur l'éviction de Donald Trump, compte tenu de la majorité que détient le Parti républicain au Sénat. Celui-ci pourrait même tout simplement refuser de l'examiner, cette procédure de destitution, comme l'explique Julien Perron sur le site de l'hebdomadaire Le Point. Certains juristes estiment que rien n'oblige le Sénat à organiser le procès de Donald Trump. Selon Bob Bauer, un ancien conseiller de Barack Obama qui enseigne le droit à la New York University School of Law, la Constitution confère au Sénat le seul pouvoir de juger un président. C'est en vertu de ce seul pouvoir que le Sénat pourrait refuser de juger un président, même si la Chambre des représentants lui demande de le faire. En cette période, ajoute-t-il, en cette période de mépris pour les institutions et d'érosion des bonnes pratiques institutionnelles, le leader républicain au Sénat pourrait bien décider d'en abroger une de plus. Le Sénat décide également de la manière dont le procès doit se tenir, convoquer ou non des témoins, diffuser en direct les images du procès ou le faire se dérouler à huis clos. Autant dire que l'affaire est loin d'être bouclée. Dans l'histoire des États-Unis, seuls deux présidents en exercice ont été jugés par le Sénat. Andrew Johnson, le successeur d'Abraham Lincoln, et Bill Clinton pour parjure dans l'affaire Monica Lewinsky. Aucun n'a été destitué. Richard Nixon, lui aussi visé par une procédure de destitution, avait démissionné avant son procès. Courrier international relaie les commentaires de la presse américaine. Pour The New Yorker, Nancy Pelosi aurait été un peu vague quant aux prochaines étapes. Plutôt que d'annoncer la formation d'une commission spéciale chargée de poursuivre l'enquête sur la destitution, elle a déclaré que les 6 commissions de la Chambre qui enquêtent actuellement sur l'affaire Trump poursuivraient leur travail sous l'égide de l'enquête de destitution. L'hebdomadaire estime aussi qu'il s'agit d'un pari risqué. Jusqu'à présent, Nancy Pelosi et ses alliés à la Chambre soutenaient que 3 conditions majeures devraient être remplies pour l'ouverture d'une enquête de destitution. Un ensemble de faits faciles à comprendre indiquant que Trump a commis des infractions punissables. Deuxièmement, que la destitution bénéficie d'un large soutien dans le pays. Et enfin, qu'il y ait une chance d'obtenir au moins un certain appui républicain au Sénat qui rendra le verdict final à l'encontre du président. Actuellement, une seule de ces conditions tout au plus est remplie, la première. Le New York Times, quant à lui, estime qu'une procédure de destitution pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump en lui donnant une dernière chance de consolider son emprise sur le Parti républicain. Et compte tenu du personnage, la procédure aura tout du cirque, la partie de la politique que Trump aime fondamentalement. Cela dit, au plan du spectacle et de la com, il pourrait bien se retrouver ringardisé. Dans Les Inrecuptibles, Alice Pfeiffer signe un article réjouissant sur le style vestimentaire comme arme politique. À l'heure des réseaux sociaux et de l'image instantanée, écrit-elle, les puissants et les opposants se saisissent de codes stylistiques pour activer un discours non-verbal aussi symbolique que photogénique. Et de citer le cas de la jeune représentante de la 14e circonscription de l'État de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, lors de sa prestation de serment, elle apparaît vêtue d'un costume blanc. Les féministes identifient immédiatement le clin d'œil fait aux suffragettes qui arboraient cette même teinte en signe d'honnêteté, de pureté, ainsi qu'à Shirley Chisholm, qui reprend ce code vestimentaire lorsque, en 1968, elle devient la première femme noire à assiéger au Congrès. Sur le compte Twitter de la jeune élue, le message est clair, c'est pour honorer les femmes qui ont ouvert la voie avant moi et toutes celles qui me suivront.